Une conférence dans ce mag, une conférence de l'Université populaire de Caussade, une conférence autour de pierre à perles, Fize, retour sur les pas des Fize entre Quercy et Catalogne au XVIIe siècle. Une conférence qui sera animée par Patrice Poujade. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités. Vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus sur ces Fize. Il s'agit d'une famille, on imagine.
Oui, je ne peux pas trop en dire non plus parce qu'il faut quand même que je ne déflore pas tout avant la conférence. Donc, il s'agit d'une famille, effectivement, dont j'ai essayé de reconstituer le parcours, une famille que j'ai rencontrée, c'est une famille du XVIIe siècle, donc effectivement, la rencontre était un peu à distance, disons, à distance temporelle, que j'ai rencontrée en Catalogne par un peu le hasard de mes recherches, et ensuite, donc, m'intéressant à elle, et en particulier au chef de famille, si je puis dire, ce fameux Pierre, justement, qui devient ensuite père-fils en Catalogne. J'ai essayé de remonter pour voir qu'est-ce qu'il en était de cette famille et effectivement, cette famille, et en particulier le chef de cette famille, était originaire de Puy-la-Roque, d'où cette conférence aussi que je donne à Caussade.
Voilà. Vous avez pu retracer son parcours un petit peu grâce à une correspondance conservée. Vous avez pu retracer le parcours de ses itinéraires. Il y en a eu, hein, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la migration marchande. Pierre Fize, vous avez pu partir du château de Terrassa, on est en Catalogne, en 1661.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc moi je suis parti de Pierre Fize, enfin devenu Pierre Fize donc, en Catalogne, qui est devenu un notable très important parce qu'il devient seigneur hein, de cette ville qui est aujourd'hui une ville importante. C'est la troisième ville de Catalogne aujourd'hui, Terrassa, qui est à quelques kilomètres, une trentaine de kilomètres, disons, un peu au nord-ouest de Barcelone. Et qui est une ville industrielle aujourd'hui. Et donc, il devient seigneur de cette petite ville à l'époque, 1661 exactement. Il s'installe dans le château, dont il reste aujourd'hui une tour, hein, la tour qui est en plein centre de cette ville. Et à partir de là, j'ai essayé de comprendre comment cette personne a pu connaître une telle ascension sociale, parce que cette personne, moi, je l'avais rencontrée aussi comme marchand migrant, disons, à Toulouse, à Lérida, en Catalogne, à Barcelone, et ensuite achetant cette seigneurie et devenant ce seigneur. Et donc, voilà, et j'ai voulu en savoir un peu plus comment cette ascension sociale a été possible, et c'est là qu'effectivement, j'ai compris qu'il était issu de la migration et de la migration de Quercinois, justement, qui n'est pas une migration très, très importante ni très connue d'ailleurs, vers la Catalogne, voilà, au XVIIe siècle.
Sur le site de l'Université populaire de Caussade, www.up-caussade.fr, on peut retrouver donc le programme des conférences, notamment de celle-là de ce samedi autour donc de Pierre, Père, je n'arrive pas à le prononcer comme vous. Hein.
Non, c'est très bien.
Fize. Donc on est en 1661, il vient du Quercy pour s'installer donc à Terrassa en Catalogne.
Ouais,
comment est-ce qu'il est arrivé là? Quel était son itinéraire? Et puis vous parlez aussi de loyauté, entre guillemets.
Alors, comment il est arrivé là, justement, ça reste un petit peu une énigme, comment un fils ou un enfant de Puy-la-Roque, justement, qui était né aux environs de 1602, à peu près, hein, autour donc au début du XVIIe siècle, fils d'un habitant de Puy-la-Roque qui faisait aussi quelques affaires, en particulier qui achète beaucoup de terres, puisque moi j'ai dépouillé aussi les notaires de cette époque-là de Puy-la-Roque. Donc son père achetait beaucoup de terres, et lui, justement, le fils, à un moment donné, il s'en va. Et alors là, je ne sais pas pourquoi il s'en va, par contre, hein, parce que je n'ai pas de documentation précise de cette époque-là. Il s'en va, il fait du commerce, il s'associe avec des marchands auvergnats qui font du commerce en Catalogne et en Aragon. Alors là, on connaît mieux ces migrations auvergnates, hein, qui sont très anciennes, de marchands. Il s'associe, et je le trouve au début des années 1620, à Toulouse, justement, où il achète, en compagnie d'auvergnats, des marchandises, et ensuite, ces marchandises, il va les revendre, jusqu'à se marier. Alors, est-ce que c'est l'amour qui l'a fait installer en Catalogne, alors que d'autres marchands, migrants comme ça, rentrent au pays en général? Il se marie avec une fille donc de la région de Lérida, en Catalogne, et à partir de là, il devient marchand à poste fixe, disons. Il tient une boutique, de vente de tissus, de textiles, enfin de vêtements, enfin, etc. Et puis il part à Barcelone. Et ça aussi, c'est une autre question. Pourquoi partir à Barcelone dans les années 1640? Alors Barcelone était un port, bien entendu. Est-ce qu'il est attiré par ce port? Et il s'installe dans le quartier des affaires, hein, des affaires de Barcelone, et il s'enrichit. Voilà, il s'enrichit beaucoup, beaucoup. Et ensuite, tellement enrichi qu'il peut acheter effectivement cette seigneurie en 1661, comme vous l'avez dit. Voilà.
Vous avez pu retracer son parcours à ce donc père-fils, notamment grâce à sa correspondance. Vous avez fait le tour des bibliothèques de l'Espagne à la France. Comment ça s'est passé?
Alors, sa correspondance, effectivement, c'est... Alors, on a relativement peu, ou alors de très très grands marchands italiens, etc., mais de peu de correspondances marchandes, hein, souvent, ou de familles marchandes. Là, on a un fonds qui est déposé aujourd'hui aux archives de Terrasse, justement, où il avait acheté sa seigneurie, de 1000 lettres. Alors, c'est la correspondance qu'il a reçue, ce qu'on appelle la correspondance passive, qui le met en relation avec l'ensemble des places commerciales de l'Europe, hein, du nord de l'Europe, Amsterdam, l'Angleterre, Paris, ensuite plus au sud, Lyon, la Suisse, etc., et puis plus au sud encore, Marseille, etc., Toulouse, bien sûr, aussi, etc. Et, ça, c'est, donc, ça a été le fond important. Alors, dans ces archives, il y a aussi non seulement cette correspondance, mais il y a aussi ces archives de marchands, de livres de comptes, etc. Et puis moi, je suis parti en quête aussi sur le chemin de la migration, disons, alors que ce soit Barcelone ou ailleurs, de la documentation notariale, et en particulier, j'ai voulu voir, quand je pouvais le trouver, bien sûr, ce qu'il faisait quand il se déplaçait, et donc je l'ai rencontré un petit peu au fil... alors, c'est j'allais dire, c'est une petite aiguille que j'ai dû trouver dans la meule de foin. Non seulement donc à Puy-la-Roque, effectivement, où je l'ai retrouvé, à Toulouse, mais aussi dans d'autres villes entre les deux, disons, hein, où il se déplaçait. Et ensuite à Barcelone, bien entendu, aussi, où il a laissé pas mal de documentation notariale. Il a fait son testament, d'ailleurs, aussi, qui est important, puisque là, on a une source importante pour reconstituer précisément sa famille. Voilà. Enfin, donc, j'ai essayé de suivre un petit peu le fil où j'ai pu le suivre.
Drôle de personnage, hein, quand même, que ce père-fils qui part pauvre depuis la Roque et qui finit seigneur en Catalogne. On est là en 1661, hein, quand il a acquis le château de Terrassa, donc en Catalogne. Vous l'avez suivi pendant combien de temps, père-fils?
Alors, moi, personnellement, vous voulez dire, combien d'années je travaille sur lui?
C'est ça.
Ça fait quand même plus de 10 ans, effectivement, que je le suis, et je m'aperçois que quand je crois avoir terminé, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Alors je ne sais pas jusqu'à quand j'en aurai encore, mais bon, je ne sais pas. Ça fait plus de 10 ans, effectivement, que je le suis, et donc j'ai essayé de reconstituer ou de restituer un petit peu son itinéraire entre son départ depuis la Roque qui se fait dans les années, au début des années 1620, hein, d'après ce que j'ai pu reconstituer, jusqu'à sa mort, puisqu'il meurt en 1680 à Terrasse, justement, en laissant une famille, et ça aussi c'est intéressant, hein, si je peux en dire un mot, en particulier un fils qui porte le même prénom que lui, qui est son héritier, qui fait du commerce aussi, mais qui devient noble, qui intègre les hautes sphères en Catalogne, en réalité, et ses filles qui sont toutes mariées avec des personnages extrêmement importants en Catalogne et qui sont en relation avec le pouvoir royal, en fait, en Espagne. Hein. Donc c'est quand même un itinéraire tout à fait particulier. Hein.
Oui, alors pour l'époque, et puis encore pour maintenant. Hein.
Oui,
ce Pierre Fils, donc, on est au XVIIe siècle, l'objet... Le sujet de votre conférence, Patrice Pougène. Je rappelle que vous êtes professeur des universités et que vous intervenez ce samedi à 16h30 au Récollet sur une invitation de l'Université populaire de Caussette pour cette conférence autour de Pierre Fils, de Pierre à Père Fils, retour sur les pas des Fils entre le Quercy et Catalogne au XVIIe siècle. On rappelle que ces conférences sont gratuites et qu'on peut retrouver le détail sur le site de l'UP de Caussette. Patrice Pougène, encore merci et à samedi.
C'est moi qui vous remercie à samedi. Au revoir.